organisé un défilé de haute couture africaine dans la capitale française hier. Vous avez le programme jusqu'à 7h, heure de Paris, avant de retrouver Julien Coquel-Rouet pour RFI Matin. Tout de suite, place au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Nemo.
Du football pour démarrer avec la 6e journée de Ligue 1 et un Monaco qui célébrait son centenaire hier.
Un sémillant centenaire, même le club du Rocher qui s'offre une victoire pour ses 100 ans. Succès 2-1 sur Montpellier grâce au but du Sénégalais Lamine Camara à la toute dernière minute.
Ah ouais, je suis content, mais on va dire que toute l'équipe était meilleure. On a fait un bon match et aussi on a trouvé une bonne équipe en face de nous. Vous savez que remporter ce match, c'est important pour nous, pour la suite du championnat. Et voilà, aujourd'hui, on l'a fait, on l'a remporté. Et je suis content d'avoir marqué et d'avoir aidé l'équipe. Forcément, c'est spécial pour moi d'avoir marqué ce but victorieux devant tout ce monde. Et comme vous l'avez dit, devant ces légendes. Et voilà, je suis content, je suis fier. Maintenant, on va se concentrer sur les autres matchs et espérons qu'on va gagner.
Lamine Camara chez nos confrères de DAZN, des Monégasques qui rejoignent le PSG en tête de la Ligue 1. Une 6e journée qui aura vu le large succès de Lille, 3-0 sur le Havre et le nul 0-0 entre Lens et Nice. Ce dimanche, 4 rencontres avec notamment Marseille, 3e au classement, qui affrontera Strasbourg à 18h45, temps universel.
Et on jouait ailleurs en Europe. Liverpool se hisse en tête de la première Ligue anglaise.
Grâce à un pénalty de Mo Salah, les Reds s'imposent 2-1 sur le terrain de Wolverhampton et profitent du nul 1 partout de Manchester City face à Newcastle pour prendre seul la première place du classement avec un petit point d'avance.
Et on referme ce journal avec du rugby. Antoine, un sacré, un record pour le Sud-Africain Eben Etzebeth.
Le deuxième ligne de 32 ans a fêté sa 128e sélection avec les Springboks à l'occasion de la victoire sur l'Argentine 48-7. Succès qui offre à l'Afrique du Sud le trophée du Rugby Championship, le tournoi des pays de l'hémisphère sud. Moment doublement spécial donc pour Etzebeth Claire Bargelès.
Une larme a coulé sur la joue d'Eben Etzebeth lors de l'hymne national. Derrière lui, en caractères enflammés, apparaissent son nom et son nombre de sélections, 128. Il bat ainsi le record de Victor Matfield, qui jouait au même poste. Pour Rhys, jeune supporter des Springboks, c'est un hommage bien mérité.
Il a cette incroyable force brute, mais ce que je respecte chez lui, c'est qu'il n'est pas agressif sans raison. Il utilise ses capacités de façon contrôlée pour avoir le dessus sur ses opposants. En toute honnêteté, c'est vraiment un être hors du commun.
En 2019, cependant, son image avait été ternie par des accusations de racisme lors d'une altercation. Mais les poursuites judiciaires ont vite été abandonnées et il a su redorer son blason pour devenir une icône aux côtés du capitaine Siya Kolisi, selon Becky, entraîneur de rugby.
Sa réputation a été un peu écornée, ça a amené de la déception, mais quand on le connaît, ça ne représente pas son caractère. Je pense que dans l'ensemble, il représente vraiment bien l'Afrique du Sud.
Et Georgie espère le voir aller encore très loin.
À mon avis, il va continuer à briller, jusqu'à la Coupe du Monde en 2027.
La route est encore longue avant d'atteindre le record absolu de sélection au niveau mondial, 149, détenu par le gallois Alun Wyn-Jones. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et Ben Etzebeth, grâce auquel la nation arc-en-ciel a remporté un rugby championship qu'elle n'avait plus gagné depuis 2019.
Le journal des sports, Antoine Grenier, que l'on retrouve tout au long de la matinée sur RFI. Les principaux titres de ce dimanche 29 septembre 2024. Sayed Hassan Nasrallah a rejoint ses compagnons martyrs, annonce hier faite par le Hezbollah, confirmant la mort de son chef annoncée par l'armée israélienne. Il a été tué avec d'autres membres du mouvement dans un raid d'Israël sur la banlieue sud de Beyrouth vendredi, opération militaire baptisée Ordre Nouveau. Israël qui se félicite d'avoir éliminé un ennemi de longue date. La mort d'Hassan Nasrallah est présentée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou comme un tournant historique dans l'équilibre des forces de la région. Les autorités libanaises ordonnent 3 jours de deuil national à partir de demain lundi. Deuil également en Syrie et en Iran. Du côté du principal allié d'Israël, le président américain Joe Biden a qualifié la mort du chef du Hezbollah de mesure de justice pour ses nombreuses victimes et ajouté que les États-Unis soutenaient pleinement le droit d'Israël à se défendre contre des groupes soutenus par l'Iran. Dans le reste de l'actualité, les Autrichiens votent ce dimanche pour élire leurs députés et se choisir un chancelier. L'extrême droite est favorite, créditée de 27% des intentions de vote, juste devant les conservateurs et les sociaux-démocrates. Élection alors que vendredi, plusieurs membres du parti d'extrême droite, dont deux parlementaires, ont assisté à l'enterrement d'un ancien élu d'extrême droite, durant lequel un chant nazi a été entonné, selon le journal autrichien Der Standard. RFI, 4h47 en Côte d'Ivoire, le reportage du jour où l'exposition « This is where I am » est à voir depuis le 11 septembre à la galerie Louis-Simon Guirandou à Abidjan. Les œuvres de la photographe éthiopienne Aïda Mouloune y sont visibles. Notre correspondante sur place, Marine Janin, a assisté à l'accrochage avant le vernissage. Reportage.
Du bleu, du rouge et du jaune, les œuvres encadrées d'Aïda Mouloune ont été accrochées sur les murs de la galerie, repeintes pour l'occasion pour mettre en valeur son travail sur les couleurs primaires. Des portraits surréalistes de femmes en majesté, riches en symboles et en référence à son pays, l'Éthiopie. D'autres photos sont directement collées au mur, comme des affiches publicitaires.
Comme un papier peint, dès qu'il sèche, ça devient comme une photo posée au mur.
Celles-ci ne sont pas des œuvres d'art, mais montrent la série telle qu'elle a d'abord été dévoilée au public. Commandée par Public Art Fund, une organisation new-yorkaise à but non lucratif, celle-ci a été placardée sur 330 arrêts de bus à New York, Boston et Chicago, mais aussi à Abidjan, conformément à la volonté d'Aïda Mouloune.
Je suis très intéressée par une exposition publique de mon travail, car je crois qu'il faut aussi impliquer des communautés qui ne se rendent pas dans les galeries ou les musées. C'était pour moi une expérience très intéressante de recevoir des messages et des photos de la part de gens de toutes ces villes lorsqu'elles ont vu ces images. Et aussi, en tant qu'Africaine, le fait de pouvoir exposer dans l'espace public aux États-Unis, c'est un dialogue différent que nous engageons pour montrer la portée de l'art contemporain du continent.
Mais l'exposition en galerie permet aux spectateurs et aux collectionneurs de découvrir l'ensemble de la série avec les 12 photographies regroupées au même endroit.
J'adore son travail. Je lui ai déjà acheté 2 photos. Elle voulait être en galerie, moi je lui ai fait la proposition, elle a accepté.
Gazelle Guirandou, qui dirige la galerie du même nom, dit avoir été séduite par le caractère personnel de l'œuvre.
Elle reste éthiopienne dans son travail. J'ai vécu en Éthiopie, donc je suis peut-être pas très objective, mais ce sont des images de la photo qui me parlent énormément. Ce sont toujours des femmes, des accessoires et des tenues éthiopiennes. Et j'avoue que bon, moi ça me rappelle un peu mon enfance passée en Éthiopie. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais à partir du moment où moi ça me touche et ça m'émeut, j'ai envie de partager cette émotion-là avec d'autres.
L'exposition This is where I am restera là 2 mois jusqu'au 9 novembre prochain. En plus de ce travail personnel, Aïda Mouloune fait également émerger les talents du continent à l'Africa Photo Fair, la foire annuelle de la photographie africaine d'Abidjan. La 3e édition aura lieu du 31 octobre au 30 novembre 2024 au MUCAT, le musée d'art contemporain d'Abobo. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Comme tous les dimanches sur RFI, votre chronique littéraire avec Tirtan Karchanda qui nous emmène à la rencontre de l'écrivaine franco-guadeloupéenne Jennifer Richard. Elle sort un 8e roman intitulé « La vie infinie » et renoue avec ses premiers amours, la dystopie et la science-fiction. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour à tous et à toutes.
Tirtan Kar, nous parlons aujourd'hui de la vie infinie, autrement dit de l'éternité.
Éternité certes, mais une éternité problématique. Je laisse l'auteur s'en expliquer. Jennifer Richard.
La vie infinie nous présente Céline, une femme de 40 ans qui commence à avoir des angoisses qui montent. Son mari essaie de la rendre heureuse, il veut lui offrir l'éternité. Et à partir de ce moment-là, Céline va se demander si elle veut de cette éternité et ce qu'elle en ferait. À ce moment, elle rencontre un ancien ami du lycée qui va essayer de la convaincre que l'éternité est déjà en elle. Ce roman présente le cheminement de Céline entre deux éternités qui prennent deux formes totalement différentes.
Le récit s'ouvre dans un Marrakech luxueux, touristique. Les protagonistes ont pour nom Céline et Adrien. Il s'agit d'un couple de Parisiens quarantenaires qui ont réussi leur vie. Elle, elle est réalisatrice de documentaires. Lui, Adrien, est créateur de start-up numérique visionnaire. Adrien travaille à un programme numérique qui a pour ambition de proposer à l'humanité l'immortalité. Porté par son projet, Adrien fait visiter à son épouse le désert marocain où il envisage d'installer le data center de sa future entreprise. Or, autrefois militante révolutionnaire, Céline, elle est beaucoup moins enthousiaste. Elle s'interroge sur ce que l'homme pourrait perdre en humanité en gagnant l'éternité. Jennifer Richard.
Le fait d'avoir fréquenté pour mes romans précédents des chefs d'État ou des grands patrons, je me suis rendu compte que beaucoup de ces figures avaient très peur de la mort. Fréquentant quelques applications pour mes recherches, je me suis rendu compte que aujourd'hui les grands milliardaires sont en train d'essayer d'atteindre cette éternité par la numérisation de toutes nos données quotidiennes, mais aussi la numérisation de ce que certains considèrent comme l'âme. Dans mon roman, j'ai interrogé cette façon d'appréhender l'éternité. Qu'est-ce qu'on ferait de l'éternité en fait ? À quoi on emploierait l'éternité si elle nous était donnée ? Et est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est souhaitable.
Et comme toujours, Tirtankar, les femmes sont plus perspicaces.
D'autant plus perspicaces qu'il semble y avoir un déficit d'âme et d'humanité dans ce projet. Il est à l'image de son concepteur Adrien, qui se révèle être un homme mu par sa seule ambition. Céline, par amour, se laisse entraîner dans ce monde dématérialisé et éternel que lui propose l'homme de sa vie, jusqu'au jour où son chemin recroise celui de Pierre, un ami de lycée qu'elle avait perdu de vue.
Et les choses se compliquent ensuite.
En effet, qui plus est, ce Pierre est tout le contraire d'Adrien. Il n'a pas peur de mourir. Il fait redécouvrir à Céline la beauté des évanescences dont se composent nos vies. Les tiraillements de la jeune femme entre ces deux projets de vie sont au cœur de ce roman original, palpitant et brillant.
Et avant de refermer cette chronique, Tirtankar, deux mots peut-être sur l'auteur Jennifer Richard. Qui est-elle ?
Elle s'est signalée à l'attention en faisant paraître en 2007 ses tout premiers livres, des récits dystopiques, suivis de romans très documentés sur les méfaits de la colonisation. Guadeloupéenne par sa mère et normande par son père, l'écrivaine aime rappeler sa dette envers la littérature antillaise qu'elle a découverte tardivement, mais dont les auteurs constituent ses modèles en écriture, Jennifer Richard.
Je les ai tous lus. J'ai découvert Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, il y a seulement une dizaine d'années, en fait. Et j'adore cette littérature. Je trouve qu'il y a un propos très fort, qu'il y a une identité culturelle très forte, mais c'est ça aussi qui la rend universelle. Et vraiment, c'est une littérature d'une grande richesse, avec un langage très imagé, très sensuel.
Belle déclaration d'amour à une ère littéraire qui a déjà donné 4 prix Nobel de littérature.
La vie infinie par Jennifer Richard, c'est à retrouver aux éditions Philippe Ray, la chronique littéraire de Tirtankar Chanda, à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. RFI 6h53, ici à Paris, RFI partenaire du festival de mode FIMO 228 édition France. C'est dans ce cadre qu'un défilé de haute couture africaine a eu lieu hier au cœur du bois de Vincennes dans la capitale française. Jacques Logo, promoteur de l'événement et créateur de mode togolais, a fait découvrir au public parisien le style unique et authentique des créateurs du continent. Une diversité indispensable alors qu'a lieu en ce moment la Fashion Week dans la capitale française. Jacques Logo au micro de Maria Afonso pour la chronique 100% création.
C'est très compliqué d'être un promoteur d'un festival et aussi créateur.
Jacques Logo, promoteur du FIMO 228 à Lomé et du FIMO 228 édition France.
Je dirais que faire de la mode est un métier très compliqué, même si c'est ma passion. Et souvent, quand tu es passionné, on ne sent pas le stress, mais j'avoue que c'est un travail très stressant. D'autant plus que là, nous avons 3 festivals. On a le festival à Lomé, le FIMO. Ensuite, on a la semaine de la mode masculine qui a eu lieu en août dernier à Lomé. Le FIMO France, et puis bientôt on va encore rajouter un festival aux États-Unis qui va être FIMO Edition USA. Je dirais que c'est très compliqué d'ailleurs d'être promoteur à la fois créateur, parce que même des fois tu n'as pas le temps de créer parce que tu cours pour organiser. Mais heureusement que j'ai une équipe vraiment formidable qui est derrière, qui assure tout.
Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Jacques Logo, promoteur du FIMO 228 édition France, propose cette année sa 2e édition. Il y présente les talents africains et togolais, à la fois au public parisien et au monde entier.
On veut montrer notre identité africaine, notre identité culturelle qu'on veut véhiculer partout. Moi, je dis très souvent que la mode africaine n'existe pas. C'est-à-dire que la mode, elle est universelle, mais bien sûr qu'on a aussi une identité. Je ne vais pas vous affirmer qu'on va utiliser que des tissus africains. On peut prendre un tissu africain, comme on le dit très souvent, mais moderniser avec des accessoires qui viennent de l'Afrique et qui ont une histoire pour en fait montrer le côté vraiment rayonnant de l'Afrique. En venant en France, nous nous sommes dit qu'on va montrer les bons côtés de l'Afrique en venant exposer des créateurs, des collections qui inspirent, qui affirme et qui montre une identité vraiment africaine, africaine que nous sommes.
Retrouvez l'univers de Jacques Legault sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et on retrouve Maria Afonso dimanche prochain, 6h57 ici à Paris, la fin de cette deuxième édition d'Afrique Matin en musique, avec le groupe Walter Astral, duo parisien, composé de Tristan Thomas et de Tino Jelly. Un mélange de pop psychédélique et d'acide techno, accompagné par le son d'un vieux banjo utilisé comme instrumental oriental. On écoute La Lune.
J'entends ce silence qui escorte ta présence discrète, imposante. Tu manies les marées et comme toi j'échange de figures sans arrêt.
La Lune du duo parisien Walter Astral, ça vient de sortir ce mois-ci et c'est déjà en playlist RFI. Dans une poignée de secondes, Julien Coca et le Roem pour le début d'RFI Matin.